Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Le code de bonne conduite de la CENI pour les élections a été adopté et signé mardi 13 mars 2018 dernier par des acteurs politiques, regroupements politiques et des candidats indépendants aux élections en République démocratique du Congo. Ces documents adoptés stipulent entre autres que les acteurs politiques et leurs formations sont tenus à la tolérance, à l'honneur et à la courtoisie dans leurs propos lors des débats, au respect mutuel de la dignité, de la vie privée, des effigies, drapeaux et de l'intégrité physique de leurs adversaires. Entre-temps, qu'avez-vous observé chez vous sur l'application de ces codes? À l'adresse pa@radiokapi.net, participez à cette émission en direct et composez directement le 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69. Vous pouvez aussi poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Héritier Sidiakala à la mise en onde, Pierrot et Lamégie à la réalisation de cette émission, supervisée par Julien Niamouine et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous lançons le débat avec vous. Qu'est-ce que vous avez constaté quant à l'application de ce code de bonne conduite signé par les acteurs politiques, regroupements politiques et des candidats indépendants aux élections en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir associé dans les débats. Et comme je l'ai posté sur votre page, c'est le journaliste, à mon avis, je note que dans un état de droit, un système politique démocratique et tout se fait dans la stricte conformité des règles d'art, c'est-à-dire la démocratie, le développement. Et c'est par le respect de savoir vivre, de savoir être et le faire plus. Alors, monsieur le journaliste, ces valeurs intrinsèques constituent la boussole de tout sociétaire. Et les contrevenants sont ipso facto interpellés sous peine de couper des sanctions pénales. Maintenant, la difficulté d'observance des règles de l'éthique et voire de la constitution dans les secteurs politiques dans notre pays s'explique par la profanation de ces secteurs. Dans la recrudescence des pratiques immorales, monsieur le journaliste, il y a la corruption, la corruption, l'acharnement inutile, l'impunité, la dépendance de la justice également à la politique. Alors, au cas actuel, monsieur le journaliste, il est quasiment compliqué que les politiques congolais respectent l'éthique de l'État.
Oui, alors, Marie-Paul, je reviens encore sur ma question. Est-ce que, au regard de ce qui se passe chez vous, vous êtes à Kisangani, est-ce que ces codes de bonne conduite qui stipulent, en tout cas dans une des dispositions, que les acteurs politiques et leurs formations sont tenus pendant cette période d'ailleurs préélectorale à la tolérance, à l'honneur et à la courtoisie dans leurs propos lors des débats, au respect mutuel de la dignité, et quand même ils affichent des effigies, drapeaux et autres, ils doivent tenir compte de tous ces aspects des choses? À Kisangani, comment ça se passe maintenant?
Nous sommes en train de voir un décalage total, monsieur le journaliste, au point que il n'y a pas le respect mutuel entre les acteurs politiques. Les acteurs politiques se misent dans des pratiques de caniveaux, au point que le respect, le savoir-vivre, le savoir-être n'existent pas, où les gens se jettent debout, les gens s'injurient dans des espaces publics. Ce qui est vraiment un danger, ce qui est un mauvais exemple que ces acteurs politiques sont en train de léguer à la génération future. Voilà pourquoi je me dis que la LDC est dans une situation d'anomie où toutes les règles sont en désintégration. Parce que pourquoi les règles sont en désintégration? C'est justement parce que les temps des droits n'existent pas et les cours et tribunaux n'exercent pas leurs compétences. Parce que si les cours et tribunaux exerçaient leurs compétences et que tous les services de l'État étaient à fonction normale, on devrait interpeller ces gens pour essayer de les rappeler l'observance de l'éthique. Et la CENI, qui bel et bien a mis à position des candidats ces codes, mais ces codes ne seront pas respectés, d'autant plus que les acteurs politiques, les gens qui font la politique n'ont aucune éthique ici. Toutes les règles, tous les jets sont permis, tous les moyens sont permis pour obtenir le pouvoir. Voilà. Seulement, cet aspect des choses est dicté par cette façon de faire un peu la politique dans notre pays. Parce que les gens pensent que en entrant dans l'arène politique, c'est un moyen pour devenir riche. Alors, ils vont utiliser de toutes les manières, de toutes les façons pour obtenir le pouvoir. Si on va un peu inverser,
oui, rapidement, Marie-Paul,
la pyramide en dotant, en faisant de la politique non une place où les gens doivent s'enrichir, mais une place où les gens doivent être là pour donner.
Donc c'est là éviterait ce genre de dérapage que vous avez.
On devrait peut-être voir un peu les choses changer.
Merci
mais
beaucoup.
Si on reste dans cet aspect des choses, je crois que on va.
Il y a rien qui va changer. Merci beaucoup.
On aura beaucoup de choses.
Merci beaucoup Marie-Paul d'avoir constaté à Kisangani que ce code est vraiment en souffrance d'application parce que finalement il y a l'absence de respect de l'éthique dans les chefs de certains acteurs politiques et pourtant nous sommes dans un état des droits qui appelle au respect mutuel. Voilà, merci beaucoup. Alors Roland, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, JR, bonjour, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent à l'instant.
Quel est votre avis? Et qu'est-ce que vous avez d'abord observé à Lubumbashi?
D'accord. Avant d'arriver d'abord sur l'observation et tout ce qui se passe à Lubumbashi, permettez-moi de vous dire que la question que nous sommes en train d'exploiter à l'instant, c'est une question d'éthique, c'est une question de morale. C'est une question de la conscience républicaine. Vous savez, quelqu'un a dit en politique qu'un homme d'État n'est pas celui qui vise à s'éterniser dans le pouvoir, ni moins encore sur les élections, mais c'est celui-là qui vise aussi sur la génération future. Alors nous, en tant que jeunes, nous sommes en train de voir que nous sommes déjà à côté. Alors, par rapport à la problématique du jour, hier, je tiens à vous informer que s'il y a le pur qui se passe peut-être à Kinshasa, mais ici à Lubumbashi, c'est en tout cas l'enfer. Aujourd'hui, l'intellectuel congolais semble mettre son intelligence justement pour diviser les textes. Aujourd'hui, on veut nous faire voir qu'il y a la différence entre la propagande politique et aussi la campagne politique. Ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'en communication, comme vous le savez, on dit tout peut ou n'est pas communiqué, mais tout communique. Tout geste communique. Même si on parle que c'est une propagande que nous sommes en train de faire, quelle est la finalité? Quel est l'objet? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est justement pour faire persuader l'électeur en vue de s'adapter à élire un candidat donné. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous faire comprendre? Ramadan Ishadak, par exemple, ça c'est un cas que je prends d'une manière isolée. Est-ce que quand il n'était pas encore candidat, on nous faisait passer tous ces histoires-là à la télévision, négatif. Mais quand même, si nous restons peut-être dans cette idéologie du genre que c'est une propagande, ce n'est pas une période de campagne électorale, évidemment. Mais pourquoi cette affaire n'est pas du tout d'une manière équilibrée? C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas laisser aussi l'opposition exercer aussi? Ici à Lubumbashi, comme vous m'aviez demandé, je tiens à vous informer que le samedi passé, le patriarche Antoine Gabriel Kingo Akumanza avait appelé aussi le membre de l'ensemble de façon d'informer le membre et d'instruire les témoins directement de sorte de voir comment il faudrait procéder lors de campagne. Mais il a été incarcéré dans sa parcelle et poussé par la police. Ce meeting ou cette formation n'a pas été tenue. Mais il n'y a pas longtemps que le lundi, quand Félix Kabang est venu ici à Lubumbashi, nous avions vu comment le gouverneur, toute la ville de Lubumbashi était mobilisée pour aller l'accueillir. Ils ont fait même le meeting au bâtiment du 30 juin. Ce qui nous laisse à comprendre qu'il y a deux poids, deux mesures. Et la CENI qui s'est dit aujourd'hui être à l'arbitre. Mais en tout cas, nous n'arrivons pas à comprendre. Quand la CENI nous dit ce n'est pas le moment de campagne, c'est le moment juste de la propagande. Mais pourquoi ne pas permettre aussi à l'opposition de le faire? Pourquoi seulement la majorité? C'est qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a directement une campagne indirecte que la majorité est en train d'exploiter. Moi, je vais vous dire tout simplement que ce n'est pas ici d'une manière générale de l'opposition, de la classe politique. C'est une manière générale de la majorité politique. Parce qu'il n'y a pas longtemps que hier ou avant-hier, je suivais la RTNC et les 50. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Excusez-moi de les avoir cités sous le respect de la radiographie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque instant, à chaque journal, ce sont toujours des informations du genre soutenez le candidat des FCC, soutenez Emmanuel Ramazan Shedal. Ce qui veut dire que c'est déjà une campagne.
Merci.
Même si on ne peut pas vouloir nous tout informer que c'est une campagne. Mais tout à fait,
permettez-moi
de citer en disant que au moins les acteurs politiques prennent la conscience et républicaine.
Merci beaucoup, Roland. Vous avez en partie rejoint Marie-Paul, le premier auditeur qui a ouvert les débats en évoquant l'aspect éthique, moral et puis la conscience républicaine. Vous avez donné quelques exemples à Lubumbashi que vous avez qualifié vraiment des situations d'enfer. Et là, vous semblez comprendre que l'intellectuel met son intelligence au service du mal. Et surtout, lorsque on avance comme des concepts campagne politique et non campagne électorale, c'est que vous avez constaté sur le terrain, c'est plutôt deux poids, deux mesures, où la majorité seule a droit à faire disons cette campagne politique et non la l'opposition. Donc vous plaidez en ce que l'équilibre soit constaté. Merci beaucoup. Alors Christian, vous êtes à Bandundouville, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR et bonjour aux auditeurs.
Alors qu'est-ce que vous avez constaté dans le Bandundouville? Est-ce que ces codes de bonne conduite signés en tout cas par les acteurs politiques, regroupements politiques et aussi des indépendants aux élections en République démocratique du Congo, et ce code est-il respecté sur l'application?
Il faut dire que pendant la période des dépôts de candidature, ça a été en tout cas très le mouvement a été vraiment les mouvements laissés à désirer, mais sinon jusqu'ici je sens que il y a un tout petit peu un calme précaire, mais sinon le comportement est général. Vous savez, quelqu'un disait dis-moi où tu travailles et quel poste tu occupes, je te dirais qui tu es. Et donc tout se passe comme si les paranoïas du respect des textes et des normes n'est que plus une qualité pour les autorités politiques ou pour l'homme congolais. Et donc, ici, il a été constaté de manière générale que le respect des uns et des autres n'était pas au rendez-vous. Il n'y avait pas cette tolérance. Okay? Et donc, moi, je crains déjà, je me dis, est-ce que pendant les moments de campagne, ça sera encore pire? Et du coup, je m'en vais encore pour essayer un peu de généraliser cette situation au niveau du pays. Vous savez, comme si la qualité d'un fonctionnaire ou d'une autorité était celui, hein, dès qu'il est élevé en dignité, était celui de tourner les dos complètement aux normes qui régissent la société et c'est considéré comme étant un bourreau pour les autres. Parce que hier, les opposants d'aujourd'hui étaient au pouvoir et vice-versa. Et même à la Deuxième République. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas fait lorsqu'ils étaient au pouvoir? On se dit le pouvoir devient finalement un tapis rouge sur lequel ceux qui marchent dessus doivent avoir un peu une prééminence de la vie ou de la mort sur d'autres personnes. Et en dehors de ça, ceux qui n'ont pas une portion du pouvoir et aussi se comportent de la même manière. On se dit finalement nous sommes où? Mais sinon moi je crois que ces codes de bonne conduite est un élément majeur qu'il faut respecter pour avoir une élection apaisée, mais sinon, moi, je crois qu'il faudrait interpeller l'attention des uns et des autres pour pouvoir chercher à amener tant soit peu cette processus électoral à aboutir vraiment à atterrir vraiment dans les droits chemins, étant donné que les élections, dans une certaine mesure, c'est aussi les thermomètres qui justement mesurent la vie sociale, mais aussi la fiabilité, hein, si une autorité est affable au sein d'une communauté. Mais les constats, vraiment sur le plan général, les constats est amers, tout se comporte de la même manière. Il n'y a pas le respect des lois, moins encore le respect des simples principes de la vie. Et tout cela peut être changé pour signer ces éléments-ci, ceux qui détiennent le pouvoir essaye en tout occuper du précieux, par exemple, parce qu'on se dit, ben écoutez, le pouvoir, c'est ce que nous appelons, l'État, c'est celui qu'on appelle le Léviathan. Et c'est lui qui paye précieux, par exemple, hein, surtout, Jean Lungembo, s'il laisse, justement, aux autorités judiciaires d'agir lorsqu'il y a des dérapages, d'agir, justement, en toute partialité. Et là, je crois que lorsqu'ils agiraient en toute impartialité, Jean Lungembo, la question des curiosités ne se poserait pas. Pourquoi ces gens-là, pourquoi les magistrats essaient justement de mettre la main sur ces gens qui se comportent comme étant hors la loi. Et donc, c'est du pouvoir, c'est d'abord de l'obligation des uns et des autres de comprendre que la société ou la vie n'est pas que des élections. Les élections, ce n'est qu'une période, et après ça, la vie continue.
Oui, alors Christian, Christian, parce que vous avez dit que pour vous, le constat est vraiment amer. Est-ce que vous estimez que aujourd'hui, la justice, si elle intervient, ça pourrait arrêter quand même l'hémorragie, hein, les dégâts qui pourraient s'en suivre dans les jours à venir, parce que les mois à venir, c'est des mois difficiles lorsque nous entrerons dans la campagne. Si déjà avant, au moment où la campagne n'est pas autorisée, ces genres de situations se reproduisent, comment éviter, on pourrait l'éviter pendant réellement la campagne électorale, au moment où on est autorisé à convaincre l'électorat? Est-ce que vous estimez qu'il faut vraiment une intervention efficace de la justice en ces moments?
Bien évidemment, JR, mais là, il faudrait encore que cette justice soit réellement indépendante, qu'elle ne soit pas au service d'une machine qui est la plus forte. Mais il serait vraiment imprudent et important que cette justice soit réellement indépendante afin d'arrêter et celles-là qui sont de la majorité ou de l'opposition. Parce qu'il faut noter que les habits ne sont pas que du côté de ceux qui sont au pouvoir. Même les opposants commettent aussi des habits. Alors, comment faire? Il faut une justice libre, une justice indépendante qui pourrait intervenir. Non pas une justice qui interviendrait, qui est justement pour chercher soit à paupériser la population, à paupériser ses candidats au détriment des autres. Parce que ici, avant, nous, il faut le soulever. Il y a une époque, Jean Lungembo, les magistrats, c'est vrai, ils ont cette compétence que nous appelons le pouvoir inquisitorial, c'est-à-dire de chercher des infractions et d'arrêter les auteurs de crimes, mais ils avaient développé une habitude selon laquelle d'arrêter même des innocents, le placer en prison et chercher à obtenir des libertés provisoires avec des sommes colossaux. Même si, après des enquêtes, cela s'avérait que cette personne était innocente, c'est vrai qu'ils instruisent à charge et à décharge, mais ils avaient vraiment dépassé les rubicons. Et voilà pourquoi moi je veux que cette justice qui va intervenir au cours de cette période électorale soit une justice réellement indépendante, non une justice qui ira justement paupériser les uns les autres en leur juste faveur. Et voilà un peu Jean Lungembo, c'est de cette manière que nous pouvons chercher à établir un équilibre pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur, afin que nous ayons un Congo beaucoup plus émergent et les processus électoraux ne soient pas un moment de l'abattoir de l'être humain.
Merci. Merci beaucoup, Christian. Pour vous, donc, les constats est amers à Bandundouville et de manière aussi générale, vous l'avez dit, aucun respect de ces codes signés par les uns et les autres. Et cela ne peut changer que si et seulement si les détenteurs, en tout cas la plupart, donc ceux qui sont à tout pouvoir, arrivent à mettre des mécanismes afin qu'on arrive à un aboutissement heureux de ce processus. Et là, vous en appelez donc à la justice d'agir de manière équitable. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé des bandes de nos villes. Alors, Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, Gère, pour m'avoir associé à cet échange. Je voudrais remercier la Radio Capi pour le choix de ces sujets. Si vous voulez, j'ai devant moi quelques documents très essentiels qui parlent des élections. Et je voudrais solliciter de votre part qu'on essaye de donner les contours dans de tels débats. Puisque j'ai toujours dit que les élections sont des voies et des chemins d'installation des institutions politiques, source du bien-être de la population. Alors, lorsque vous regardez sur le plan international, ou disons sur le plan universel, les éléments qui interviennent dans les élections, il y a d'abord la constitution de la République. Ça veut dire la constitution étale les schémas qu'il faut suivre par les partis politiques, par les candidats indépendants et aujourd'hui par certains groupements politiques pour aller aux élections. À part la constitution, d'habitude dans les démocraties, il y a aussi la loi sur le fonctionnement des partis politiques qui régissent ici les normes fonctionnelles des partis politiques qui, d'un moment à un autre, lancent les compétiteurs sur le terrain. Eh bien, ces lois sur les partis politiques définissent le rôle qui revient aux partis politiques, la tâche qui revient aux individus, ou soit aux cadres membres de ces partis militants, comment se comporter avant, pendant et après les élections. C'est le même cas que chez nous. À part la loi sur le fonctionnement des partis politiques, nous avons aussi dans les démocraties ce que nous appelons les lois électorales. Et les lois électorales viennent en réalité consolider les prescrits énoncés par la Constitution, mais aussi par la loi sur le fonctionnement des partis politiques. C'est très important, je vais peut-être l'expliquer quand j'étais avancé. Mais au-delà de ça, les vieilles démocraties ou les États qui se respectent, puisque en fait, nous sommes sociologiquement des individus, mais des individus qui, de par leur nature, je ne vais pas prendre ici la Bible comme argument, ont l'habitude d'agir dans le mal que d'agir dans le bien. Eh bien, il y a des lois qui limitent cela. C'est comme ça, par exemple, pour le cas de la République démocratique du Congo, nous avons une loi qu'on appelle la loi sur les manifestations publiques. Et d'ailleurs, là, quand vous prenez l'article 29 de la loi électorale, l'alinéa premier dit ceci, les rassemblements électoraux au cours de la campagne électorale se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Le législateur sait que dans des cas pareils où il y a question des intérêts, le plus souvent, il y a un règne de l'antagonisme, ça veut dire des gens qui cherchent coûte que coûte à défendre les soucis, même des fois dans les mal. Il y a un auditeur qui a dit ceci s'observe et dans les camps de la majorité
et dans les camps de
l'opposition. Alors, il y a aussi les documents qu'on appelle aujourd'hui les calendriers électoraux. Celui-ci vient donner des époques à chaque compétiteur pour se comporter, qu'est-ce qu'il faut suivre comme ligne de conduite. Et c'est là où quelqu'un l'a dit, nous ne sommes pas encore à campagne électorale, je crois que c'était le premier auditeur.
Tout à fait.
Qui a si bien démontré que nous sommes après campagne, mais comment devaient se comporter les candidats ou les partis politiques ou les gouvernements politiques à ce moment-là.
Le législateur avait déjà tout prévu.
Voilà. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons du sixième document, les codes de bonne conduite. Ça, c'est pratiquement dans toutes les démocraties. Les individus, sachant bien les dérives comportementales que nous avons, et je l'ai toujours dit, c'est puisque nous avons eu de mauvais enseignements. Le premier auditeur l'a dit, Marie-Paul, que j'ai salué d'ailleurs à passage, de Kisangani. Les partis politiques n'ayant pas forgé les comportements et les actions de leurs acteurs, le plus souvent lancent des personnes inconscientes avec des comportements qui sont en contradiction avec les normes sociales établies.
Et qu'est-ce que vous avez constaté à Bounia?
Je dois vous dire la vérité et je donne mon propre cas. Je reviens de Kinshasa la dernière fois, j'étais avec vous au studio de Radio Kapi. Je trouve des gens qui directement viennent et commencent à filmer les gens. Moi, je voyage dans un même avion avec des personnes qui ne sont pas de mon obédience. Et vous me filmez, vous me faites passer dans vos images. Voilà. Est-ce que on vous a dit que Sylvain qui voyage avec certains cadres de PPRD et de PPRD pour me filmer? J'ai demandé à ces photographes, disons à ces caméramans, messieurs, élimine-moi ces tranches de filmage, puisque je ne voudrais pas passer dans vos affaires. Là, les codes, lisez les codes, puisque c'est ça la question. Lisez les codes de bonne conduite que nous avons. Je pense que chaque candidat aujourd'hui, chaque politicien, chaque parti politique doit donner ses codes de bonne conduite à ses candidats, à ses militants et à tout le monde pour que l'Australie s'est comportée. Puisque j'ai toujours dit, M. Gère, et c'est important, pendant les périodes électorales, les niveaux de conflits augmentent. Eh bien, il faut chaque fois que les candidats puissent se munir de tous les documents nécessaires pour les protéger contre les déchets.
Oui, on a l'impression, Sylvain, on a l'impression que les codes, le sixième document que vous évoquez là, est de moins en moins pris en compte par les acteurs politiques qui, en tout cas, passez-nous les termes, parfois ils viennent à néophytes dans la vie politique, mais qui ne prennent pas en compte non, l'importance même de ces codes, de ces documents.
Monsieur Gier, vous avez posé une très bonne question. J'ai toujours dit la radio Capi, le jour où elle fermera sa porte, alors le Congo va mourir. Puisqu'il faut sensibiliser. J'ai toujours dit dans cette émission, les partis politiques congolais, puisque je les ai étudiés 5 ans durant pendant que j'étais à l'université, n'ont jamais rempli le rôle. Mais c'est Gère, c'est vrai. Et je serai direct, excusez-moi. Si Sylvain passe comme président de la République démocratique du Congo et échoue, développe des expressions négatives, des expressions méchantes. C'est puisque dans les partis politiques de M. Sylvain, Sylvain a reçu ce genre d'enseignement. Le premier auditeur l'a si bien dit, même le deuxième. Mm-hmm. Deuxième chose, puisque nos partis politiques n'ont jamais le temps de faire intérioriser par leurs militants, leurs cadres de valeurs républicaines à travers des enseignements, d'abord un, de la Constitution, des différentes lois du pays, voilà ce que vous dites arrive. Il y a des politiciens qui ne connaissent même pas une seule loi. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes une grande radio. Faites le sondage. Quel est ce parti politique qui a le code de bonne conduite et qui l'enseigne à ses militants, ses cadres? Je pense que si on en aura peut-être un ou deux.
Voilà, merci beaucoup Sylvain. Ben, de toutes les façons, il y a un auditeur qui a écrit en disant que la plupart des cadres du parti ont l'esprit ailleurs. L'objectif pour eux, c'est seulement conquérir les pouvoirs, mais le reste, tout ce qui entoure cette conquête du pouvoir, le respect de l'éthique, la morale, et aussi le respect des uns et des autres, comme l'a dit d'ailleurs Roland en évoquant la conscience républicaine, tout ça, c'est le cadet de leurs soucis. D'abord, arriver au pouvoir à tout prix, mais sans le respect de vertus et qui pourrait, au fait, des vertus républicaines, allais-je dire, qui pourraient être le cheval des batailles dans les prochains mandats qu'il peut prendre. Merci beaucoup à Sylvain d'avoir évoqué plusieurs éléments à la fois, donc c'est-à-dire la connaissance de la Constitution et les lois de la République qui pourraient nous amener à comprendre tous les contours de ces processus électoraux et surtout à ce niveau où il y a un faible respect du code des bonnes conduites. Merci beaucoup. Alors, Bitu, vous êtes à Kipese, vous gardez la ligne en même temps Pacifique qui est à Lubumbashi, 09 97 06 6330 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue à Parole aux auditeurs. Bintou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup. Je commence d'abord par féliciter la Radio Okapi et féliciter tous les intervenants de Parole aux auditeurs puisque nous avons gagné la première bataille. Nous sommes maintenant en train de continuer pour arriver à ce que nous cherchons l'alternance. Je pense que en ce qui concerne le code de bonne conduite, comme c'est quelque chose qui doit s'appliquer de bonne foi, et comme le code n'a pas prévu de sanctions, c'est tout à fait normal que les gens continuent à violer. Comme les différents accords qui ont été signés et qu'on n'applique pas puisque ça doit s'appliquer de bonne foi. Je pense aussi que la CENI qui doit suivre cela, doit aussi à s'appliquer à elle-même le code de bonne conduite. De sorte que les élections s'organisent dans un climat apaisé, puisque c'est la CENI celle qui doit faire en sorte que cela se passe ainsi, en n'écartant pas d'autres candidats, en ne recevant pas des injonctions qui vont permettre à ce que d'autres candidats soient écartés. À ce moment-là, ça va aussi améliorer les choses. Quant aux acteurs politiques, qui doivent appliquer le code de bonne conduite. Vous savez que parmi ces acteurs politiques, beaucoup n'ont jamais pris connaissance de ces codes de bonne conduite. Ils n'ont même pas eu le temps de les signer. Il y en a qui ont signé, d'autres n'ont pas signé. Et comme ceux qui ont signé, même ceux-là qui n'ont pas signé, continuent à agir de la même manière. Les candidats qui sont déjà inscrits sur la liste de la CENI, qui sont en train qui sont actuellement en pré-campagne, se sont transformés, vous savez, en bienfaiteurs. Nous avons vu d'autres qui sont en train de tirer même des caniveaux pour dire qu'ils sont devenus maintenant des cantonniers, au lieu de préparer des lois qui doivent aller présenter au niveau de l'Assemblée nationale, mais on est en train de faire telle ou telle action afin de saturer les électeurs. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est l'usage des moyens disproportionnés par les candidats. Vous savez, il y a des candidats, normalement, comme la loi prévoit, qui est ceux-là qui ont certains postes de responsabilité, ils devraient en principe démissionner avant de faire quoi que ce soit. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas démissionné. Ils gardent leur poste et ils continuent à utiliser les moyens de l'État pour s'en servir. Et puis, cela crée un grand problème, puisqu'ils disposent des moyens très importants par rapport à d'autres candidats, pendant qu'ils doivent bénéficier des mêmes moyens. Et cela va entraîner un déséquilibre important, étant donné que l'État congolais n'applique pas la loi sur le financement des partis politiques. Et ceux-là qui ont les moyens entre leurs mains vont user et continuer à l'utiliser de temps à autre. Combien de candidats de l'opposition sont restés sur le plateau de la RTNC pour dérouler leur programme? Mais vous trouverez que des candidats journalistes et des candidats proches du pouvoir sont restés dans des médias proches du pouvoir. Ils sont en train de dérouler leur programme. Et c'est là aussi, c'est un déséquilibre très important, étant donné qu'il y a d'autres candidats qui n'ont même pas accès à ces médias-là. Donc c'est quelque chose que nous devons réparer, c'est de l'injustice. Et pendant cette période, la RDC doit éviter d'organiser des élections qui vont nous ramener à la case du départ. Ça veut dire, avant les élections, sera après les élections. Nous sommes pendant une période où nous avons besoin des élections qui doivent nous amener à un apaisement. Et pour que ces élections amènent à l'apaisement, il faut que les élections se passent de bonne manière. Non seulement il faut que les gens respectent le timing prévu pour la campagne électorale, mais il faudrait aussi que ces élections-là soient inclusives, que ces élections puissent permettre à ceux-là que tous les enfants du Congo puissent concourir, qui ont postulé, et ceux qui n'ont pas postulé, qu'on puisse les aider aussi à les faire. Puisque vous savez, tous les conflits qu'a connu ce pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la première cause, c'est les problèmes de d'exclusion. Lorsque vous allez dans des élections où certains candidats pensent avoir été exclus, ils cherchent d'autres moyens comment revenir et puis prendre le pouvoir. Alors ça ne va nous amener nulle part. Et lorsque vous allez dans des élections où on cherche à écarter d'autres candidats qui se sont réellement, qui ont rempli les conditions nécessaires pour être candidat, mais on veut les écarter par certaines manœuvres politiques pour balayer le chemin à un candidat qu'on veut qu'il puisse prendre le pouvoir coûte que coûte, même si cette personne, même ce candidat, même si ce candidat-là n'est pas aimé par la population, alors à ce moment-là, ça ne va pas. Si on veut aller à de meilleures élections, la CENI, avec le président en tête, doit aussi comprendre que les élections, la CENI n'organise pas les élections pour elle-même. La CENI doit organiser les élections pour les acteurs politiques et pour la population congolaise. Étant donné que la population congolaise s'oppose à ce que les élections ne se passent pas avec la machine à voter, il faudrait que...
Donc il faut que les gens reviennent. Merci beaucoup. Alors... ce qu'on retient de votre intervention, Bitou, c'est le problème, c'est que le code devait s'appliquer de bonne foi, et le fait que ça ne soit pas contraignant, ça arrive difficilement, et même les partis politiques n'ont pas, n'ont pas eu ce courage de pouvoir posséder ces codes pour les scruter et enfin de connaître un peu le contenu. Donc c'est tout ça, tous ces contours qui font défaut. Merci beaucoup Bintou d'avoir appelé de Kimpese. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, également bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde.
Et qu'est-ce que vous avez constaté, vous, à Lubumbashi, par rapport à l'application de ces codes de bonne conduite?
Mon constat est amer. Tout de suite, là, je vous dirai que mon constat est très, très amer. C'est la signature de ce code de bonne conduite est déjà voué à l'échec. Dès lors que on commence déjà à faire des propagandes politiques, il y a des campagnes politiques qui se passent ici et là dans les médias. Et même les effigies, vous voyez des effigies. Je venais de Kasumbalé, ça vous trouvez les effigies. Donc, moi, si je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est temps déjà? Est-ce que ce code-là est respecté? Non. Nous avons un problème sérieux en République démocratique du Congo, c'est le manque de la culture politique. Il n'y a pas de culture politique.
Mais alors comment commentez-vous cette interprétation? Parce que les uns s'appuient sur ces concepts campagne politique et non campagne électorale. Est-ce que ça prête pas confusion
en fait? Non. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de campagne politique, il n'y a pas de campagne électorale. Non, ça a déjà commencé. Quand on parle de campagne politique, nous prenons quelle optique? L'optique élection. Et quand nous prenons l'optique élection, nous voyons directement sur la campagne électorale. Et la démocratie veut dire quoi? La démocratie veut dire tolérance. Donc, je peux tolérer les avis de mon frère peut tolérer mes avis. Le rôle des partis politiques que j'ai, c'est d'abord d'éduquer les militants, les inculquer les valeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de valeurs. De part et d'autre, nous voyons qu'il n'y a pas de valeurs. Dis-moi, j'ai aujourd'hui, si je peux ramasser un exemple rapidement là. Monsieur Kokonyangi, qui va à Kindu pour faire la propagande de FCC, mais il adresse des paroles très méchantes, des injures à l'endroit de Moïse Katumbi, à l'endroit de Jean-Pierre Bemba. Il taxe les actions de Jean-Pierre Bemba comme étant des conneries. Il dit si Moïse Katumbi était non. Donc il les dénigre sur les médias. Et que dire les militants de Moïse Katumbi aussi en retour? Ils feront quoi? Les militants de Jean-Pierre Bemba, ils feront quoi? Si lui, à son niveau-là, en tant que gestionnaire, en tant que leader, en tant que responsable d'un parti politique, il agit comme ça, dis-moi sa suite sera comment? Donc les gens de la majorité ne craignent rien. Donc ils peuvent...
Oui, Pacifique, je crois qu'il y a un auditeur qui a évoqué tout à l'heure l'intervention de la justice, parce que bon, de l'autre côté aussi, comme l'a dit Bintou, les codes lui-même devaient être appliqués de bonne foi, c'est-à-dire il n'est pas contraignant, et c'est ce qui fait que voilà, nous vivons toute cette confusion, par exemple.
Voilà, les règles n'est pas contraignant, parce que la CENI va vous dire que la CENI n'a pas de mesures de coercition. Et quand vous évoquez la justice, quelle justice à double vitesse? Où aujourd'hui il y a les gens de la majorité qui font sortir les marchands, les mamans, les messieurs qui vendent dans les marchés pour aller écouter leur propagande politique, pour aller écouter leur campagne politique, vous voyez? Et sous peine de les sanctionner s'ils ne sont pas venus, parce qu'on va leur donner des jetons. Mais quand l'opposition voudrait agir, c'est un problème.
Pacifique, nous avons vu les codes interdire les membres d'accompagner des candidats, soit à la députation nationale ou encore à la présidentielle. Mais qu'est-ce que n'avons-nous pas vu ici à Kinshasa? Même des grands partis politiques, des grands leaders d'opinion qui ont drainé de monde pour les accompagner, déposer leur dossier au décès de l'opposition.
Voilà, c'est ici chez nous à Lubumbashi, on a dispersé les gens de l'UDPS, on avait même arrêté certains cadres de l'UDPS dont Madiondo, on avait dispersé les gens de l'ensemble, on avait molesté même Christian Mwando, mais
les gens de la majorité, à Kinshasa, c'était
été accompagnés par les marchands de différents, les vendeurs de différents marchés, avec tambour battant, et il n'y a rien qui leur est arrivé. Il n'y a pas de justice.
Merci
si
beaucoup.
Il y a la justice, on devait laisser également les gens de l'opposition aussi agir comme eux. Vous voyez, les gens de l'opposition, ils veulent aussi donner quelques mesures.
Voilà. Alors, mais nous avons quand même quelques cas que nous avons vus qui n'ont pas connu de problème des gens de l'opposition pour ne pas Délice Essanga, honorable Délice Essanga, pour ne pas les citer, dans son fief, il a été fait accompagner par vraiment un nombre important des militants. Donc, les problèmes ne s'est pas posé à ce côté. Mais merci quand même d'avoir partagé avec nous cette information, ce qui se passe de l'autre côté, et qui, au fait, constitue une difficulté énorme pour l'application de ce code des bonnes conduites signé par les partis politiques, les regroupements politiques et aussi les indépendants aux élections en République démocratique du Congo. Grâce, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue.
Bonjour la Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, le code de bonne conduite tel qu'élaboré par la CENI devait prévoir des sanctions en cas de non-respect. Les acteurs politiques qui ne devaient pas obéir à cette loi-là devaient en principe subir une peine, sinon ça devient de n'importe quoi et sans être inquiété. Tout dépend aussi de l'attitude de la CENI envers les hommes politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Parce que ici, à Kikwit, si vous sillonnez partout, vous n'allez voir que souvent les partis politiques de la majorité qui se livrent déjà à la campagne électorale, qu'ils parlent de la campagne politique. C'est comme ça que j'aimerais de savoir quelle différence y a-t-il entre campagne électorale et campagne politique. Parce que les deux semblent avoir les mêmes objectifs. À mon avis, il fallait que la CENI prévoie des sanctions. Vraiment, les sanctions sont beaucoup plus importantes. Et ceux qui viennent à cette campagne précoce, c'est souvent ceux qui ont échoué à la gestion de la chose publique, ceux qui, valablement, n'ont aucun programme à donner, ils se précipitent, finalement, on ne comprend beaucoup plus rien. Et nous voulons que la sanction soit suivie à cette loi-là, pour que ceux qui ne vont pas les respecter subissent quand même la rigueur de la loi. Et nous voulons aussi que les partis politiques de l'opposition se livrent aussi à cette même campagne qu'ils qualifient de politique pour qu'il y ait équilibre. Sinon, c'est deux poids, deux mesures. Et vous verrez que les autres ne vont vraiment pas bien accueillir cette attitude.
Voilà. Merci beaucoup, Grâce. Je crois que, comme l'a dit votre prédécesseur, il en vaut pour aider la majorité et l'opposition. Parce que nous avons, parfois, quand nous vous accueillons dans ce genre d'émissions, des fois, il y a certains politiques qui mettent de l'opposition qui n'ont même pas de courtoisie. Merci beaucoup, Grâce. Alors, Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Et bonjour aussi à notre invité, s'il y a quelqu'un. Par rapport à la thématique au respect des bonnes conduites, nous fustigeons, monsieur Pierrot, pour avoir des bonnes élections, il ne faudrait pas qu'il y ait une politique à deux poids, deux mesures. Il faut comprendre qu'au-delà de la campagne électorale, puisque nous sommes dans la période préélectorale, on n'est pas contraint de faire la campagne électorale. Mais néanmoins, il ne faut pas interdire aux autres partis de tenir même des réunions de salon. Puisque ici, à Lubumbashi, M. Biro, même à Kasumbalesa, lors de l'arrivée de M. Moïse Katumbi-Chapo, la population a joué la ville de Kasumbalesa pour accueillir les leurs qui a mis au moins 3 ans à l'extérieur. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Biro, les jeunes gens-là sont arrêtés, ils sont à la cafette. Aujourd'hui, ils sont en train de passer en chambre des conseils. Puisqu'il a été organisé un bouclage la nuit, tous jeunes garçons qu'on trouvait dans la maison, on a ramassé. Aujourd'hui, ils sont en train de passer ensemble des conseils au niveau du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Mais, lorsque les gens de la majorité arrivent ici à Lubumbashi, il y a des caravanes motorisées. Au moment où je vous parle, je suis au niveau de la prison de Kassapa, mais quand je partais, j'ai vu un cortège de PPRD avec sécurisé même, se rendant vers le bâtiment du 30 juin, là où il y a une manifestation. Alors nous nous posons une question. Est-ce que le code de bonne conduite est seulement pour l'opposition ou ça pour aussi la majorité? Nous avons vu le chef de l'État, le président sortant, M. Joseph Kabila, partir avec dans son judiciaire, avec M. Chadari, soi-disant son dauphin, le présenter auprès des chefs de l'État, des chefs d'État de la SADC. C'est aussi une campagne. Mais lorsque le code de bonne conduite est biaisé au niveau du sommet, que dire de ceux-là qui sont en bas? Moi, je voudrais que la CENI puisse jouer son rôle d'impartialité. Et je ne comprends même pas comment est-ce qu'un monsieur qui peut jouer le rôle d'impersonnalité, et lui aussi était dans la suite du chef de l'État, le président sultan, M. Kabila, puisqu'il a déjà son dauphin, vers Windhoek. On ne comprend absolument rien. C'est-à-dire que nous avons constaté que cette leçon-là de bonne conduite n'est appliquée que du côté de l'opposition. Moi, en tant que porte-parole de l'ensemble des grands Katanga, nous avons obtenu au maire de la ville pour tenir notre meeting au niveau de la cité des jeunes le samedi dernier. On nous a empêchés, on a mis des militaires, on a même encerclé la résidence de Wabasinga Kumwanza. Nous avons appelé Monisco, nous avons appelé RFI, Kamande Kamande, passé par-ci, par-là, mais rien n'a été fait. Alors, nous nous posons une question. La chaîne même nationale qui nous est réservée, qui fonctionne avec l'argent du contribuable congolais, ce n'est que les gens du pouvoir qui passent et qui font même des campagnes, même des propagandes.
Merci beaucoup, maître Sonville. Merci beaucoup, maître Sonville, d'avoir appelé et d'avoir contribué dans cette émission. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue. Maître Adrien, vous êtes avec nous? Voilà, le temps, peut-être que la ligne de maître Adrien s'améliore. On va prendre Jean-Baptiste qui est à Kisangani. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour, bonjour, Julien. Bonjour à tous les auditeurs de la Lyon du peuple.
Voilà, quelle est votre contribution?
Oui, Julien, en tout cas, dire qu'il y a la loi, moi, je trouve que on ne peut même pas en parler. On ne peut pas en parler parce que ce qu'on voit ici, même ici chez nous, comme disent tous les autres, là, c'est la même chose. Il y a les drapeaux. Peuple exerce toutes ses activités dans la quiétude. Mais il suffit seulement qu'un communiqué passe dans une des radios, mais pas la radio officielle d'ailleurs. La nuit même, vous allez voir le déploiement de la police, de militaires un peu partout pour empêcher cette activité-là. Et aussi parler même de l'indépendance de la CENI. Bien ça, moi, je peux dire qu'il n'y en a pas. Parce que l'ami, celui qui venait de parler un peu avant, là, a dit le déplacement du chef de l'État qui est allé dernièrement ici, il s'est amené avec son dauphin, bien sûr, mais qu'est-ce que le président de la CENI a à voir avec ça? Pourquoi l'a-t-il amené aussi dans cette... Où est l'indépendance maintenant de la CENI? Même cette loi dont on parle, la loi c'est toujours pour deux poids, deux mesures, comme venait de dire l'autre aussi. Partout, il y a des nommements. On s'attaque...
Voilà. Alors, donc, je vais demander à celui qui va... qu'on va accueillir tout à l'heure. Donc il y a Simon Tsilulu qui est à Matadi, et peut-être il a aussi quelques propositions à faire afin qu'on évite quand même certains dérapages. Simon, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Tsilulu depuis Matadi. Je voulais simplement intervenir dans ce sens que c'est d'abord une bonne chose que ce code de bonne conduite n'ait pas de mesures contraignantes. C'est quand même quelque chose aussi de moral pour voir le niveau, soit de médiocrité ou niveau de progrès de nos acteurs politiques. On leur donne quelque chose qui n'a pas de contraintes pour qu'on puisse vraiment vérifier si l'éthique et morale pouvaient être à jour. Et puis, autre, je vais parler seulement des deux petites et une petite conclusion. Vous savez que nous sommes dans un pays où lorsque vous proclamez quelque chose, c'est tout le monde qui s'empresse pour savoir ça. Nous avons, par exemple, dans toutes nos chaînes, les jeunes qui passent, les papas qui passent, les politiciens qui passent, qui parlent de coup sur coup. Et ce terme, on l'attribue à un candidat président de la République. Or, ce candidat nous avait donné le contenu de coup sur coup. Le contenu de coup sur coup, il avait dit ça à l'Équateur, il a dit, si on t'insulte, toi aussi, tu insultes. Si on te dit, maman n'ayo, yo pe, maman n'ayo. Alors que la loi dit, personne ne peut se faire justice. Lorsqu'on te provoque, tu dois aller à la justice et non rétorquer. C'est quand même condamnable. Alors, lorsqu'on passe dans toutes ces chaînes de radio, de télévision, ici et ailleurs, qu'on ait quand même certaines retenues. Oui, retenu pour ne pas appliquer ces expressions. Vous savez ce que ça veut dire? Coup sur coup. Nous allons où? Nous allons tomber dans un désordre très grave. Parce que lorsque vous dites coup sur coup, vous n'allez plus voir. Ça veut dire que ne voyez plus la justice. Il faut directement rétorquer. Comme si l'autorité
établie qui est faite pour nous gérer aura un parti dans ça. Donc ce sont des termes qu'il faut éviter. Et ce qui est marrant, c'est que même si le monsieur parle, le journaliste n'a pas la possibilité, sinon, ne sait pas qu'il faut lui remettre à l'ordre tel que vous le faites à la radio Capi. Si je dérape, tu me rappelles à l'ordre pour que je revienne. Et tous ces journalistes dans des chaînes de radio, de télévision, personne ne s'est rappelé que ce qu'on dit coup sur coup, c'est un grand danger pour l'avenir de la République. Parce que nous serons maintenant sans loi. Et vous verrez ce que ça va faire. Pour le FCC, je sais qu'il ne faut pas qu'on en parle trop. Parce que FCC, c'est le gouvernement. Ça devient un parti gouvernemental où on a pris tous les ministres, tous les gouverneurs, tous les administrateurs d'État, tous les coins de secteur, et même au village, ils veulent arriver. Et quand le gouvernement qui doit gérer la société civile, l'opposition, et tout le monde prend déjà parti en faisant un front commun pour le Congo. Ici, je parle de FCC, de front commun pour le Congo, pas le FCC, de front des Congolais corrompus. Je ne parle pas des Congolais corrompus, je parle de front commun pour la République, pour le Congo. Alors, ce genre de choses, sur le plan éthique, nous fait voir, ça devient une forme de thermomètre pour évaluer déjà la qualité des hommes politiques que nous avons. Et nous risquons de donner Monseigneur raison lorsqu'il a dit qu'il y a des médiocres. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter.
Merci
même
beaucoup.
À la chaîne nationale, même où que ce soit, il faut éviter ça pour que la lucidité soit observée et remarquée.
Merci beaucoup, Simon. On a pris assez de temps, on va accorder la parole à, en tout cas, entre Franck et Jérémy. Un de vous va nous excuser parce qu'on n'a plus assez de temps. Ben, on prend quand même Franck qui est appelé de Vienne. Franck, bonjour. Franck, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Franck. On prend plutôt Jérémy qui est à Lubumbashi. Jérémy, bonjour.
Je suis avec vous.
Voilà, Franck, alors vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je dois commencer par m'excuser pour ce qui s'est passé avant-hier. En tout cas, je n'avais pas l'intention d'être discourtois, puis c'est pas par rapport à mes habitudes de caractère ou quoi, mais...
Vous n'avez qu'une minute, Franck, vous n'avez qu'une minute.
Ouais. Merci beaucoup. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, vous savez que chez nous, la proportion et la dose de la complaisance dépassent celle de l'objectivité. La proportion et la dose de l'inconstance est l'épicentre de l'agir politique et de nos hommes politiques. Puis, c'est pas... les lois, les accords qui manquent ou les textes légaux, mais c'est peut-être que nous avons un problème d'hommes crédibles et fiables pour faire appliquer toutes ces lois dans leur intégralité. Puis, quand vous avez des dirigeants qui sont inconstants dans leur agir, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux? Donc, c'est tout à fait normal que la campagne électorale va s'annoncer chaude et rude parce que les gens ne vont pas se faire des cadeaux. Puis, quand bien même ils pouvaient avoir des dérapages, c'est quelle justice qui pouvait les ramener à l'ordre. Donc c'est parfois triste de voir que nous avons des gens qui, au lieu de prêcher par l'exemple, ils prêchent par le contre-exemple et ils trouvent toujours des justificatifs pour se trouver des prétextes ici et là. Mais on souhaiterait que ça se passe normalement, mais avec quel type d'homme? C'est un peu ça notre crainte.
Donc avec quel type d'homme? Parce que il y a Sylvain qui a parlé de toutes les lois et qui ne sont pas au fait prises en compte par les acteurs politiques aujourd'hui. Donc c'est pratiquement là le problème. Est-ce que vous partagez cet avis, Franck?
Oui, mais tout à fait.
Il y a une méconnaissance terrible de ces lois de la République par certains acteurs politiques et même de leurs militants.
Oui, nous avons, au Congo, nous n'avons pas un problème de texte, mais nous avons un problème de l'application de ces textes. Et les textes en soi ne peuvent pas s'appliquer sans les hommes. Ce sont les hommes qui conçoivent ces textes, qui votent ces textes, qui les promulguent et qui doivent les faire appliquer. Et si ces hommes ne veulent pas les faire appliquer, parfois de manière manifeste, qui les fera appliquer? C'est comme ça que dans la plupart des cas, vous allez constater qu'ici, la plupart de nos compatriotes reviennent sur les problèmes d'hommes, le manque de constance, le manque de loyauté, le manque de fiabilité, le manque de crédibilité. Et ces gens veulent qu'on puisse applaudir là où on nous fait voir le contraire de ce que tout le monde voit en homme normal et conscient. Ça, on ne peut plus garder silence. Nous avons un problème d'hommes qui puissent respecter
Les textes légaux de la République. Merci beaucoup. On termine par vous, donc, avec vous, Franck Devienne. Vous êtes le dernier auditeur à intervenir à ces jours. Nous nous excusons pour Jérémy qui devait prendre la parole juste après vous. Voilà, donc, on se quitte par ici et nous disons merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Polydor Bassonga était à la mise en onde, Pierrot et Lamégie à la réalisation de ce programme, supervisé par Julien Nyamweni et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.